France Inter. .fr.
Viva la femme.
Viva.
Tu es infâme.
Moi ? Je ne suis pas infâme. Je suis une femme.
Les femmes, toute une histoire.
40 ans après le MLF, les inégalités femmes-hommes sont toujours
aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Les temps, ça change.
Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
Le féminisme, c'est mon engagement peut-être le plus profond. Et c'est l'activité à laquelle je tiens le plus.
Une émission de Stéphanie Duncan.
Bonjour, aujourd'hui, les femmes, toute une histoire est consacrée aux femmes dans la science. Comment se fait-il que quand on parle des sciences, si peu de noms de femmes nous viennent immédiatement à l'esprit ? Pourtant, il y en eut des femmes savantes. Ah, ça y est, vous avez remarqué, quand on dit ces deux mots ensemble, femme et savante, on voit tout de suite l'héroïne de Molière, Armande, bas bleu, coincée, méchante et faussement savante. Mais non, allez, on va assumer ces mots des femmes savantes. Oui, brillantes, rationnelles, qui cherchent et qui trouvent, il y en a toujours eu. Mais l'histoire a enseveli leur nom dans l'oubli. Il en a fallu du temps, par exemple, pour redécouvrir Émilie du Châtelet, éminente physicienne et mathématicienne du XVIIIe siècle, longtemps cantonnée dans le rôle de maîtresse de Voltaire. Ou encore Clémence Royer, au XIXe siècle. C'est elle, pourtant, qui fit connaître en France l'origine des espèces de Darwin et sa théorie de l'évolution. Comme les universités étaient fermées aux filles, Clémence avait appris toute seule dans son coin. C'était donc une autodidacte, un truc que les savants, les vrais, n'aiment pas beaucoup. Mais peu importe, Clémence Royer s'est bien amusée. Les savants, écrit-elle, ont entouré le champ de la science d'une haie d'épines. Mais au-delà, il y a des fleurs. Dès lors, j'ai résolu de faire une trouée dans cette clôture ou de sauter par-dessus s'il le fallait. Je suis entrée dans le champ et j'ai ramassé un bouquet de fleurs. Pour Marie Curie, la femme de science par excellence, il en a fallu aussi de la détermination, pour ne pas dire du culot, pour foncer dans les haies d'épines de l'establishment scientifique. Et pour sa découverte du polonium et du radium, ses travaux sur la radioactivité, devenir la première femme à obtenir un Nobel en 1903 et, comme si ça ne suffisait pas, un deuxième 8 ans plus tard. De cette femme fascinante, Marie Curie, nous parlerons dans un instant avec Jeannine Trottereau, sa biographe. Et aujourd'hui, en 2011, en France, les études scientifiques, bien sûr, sont ouvertes indifféremment aux filles comme aux garçons. Et pourtant, elles ne sont qu'un quart à s'orienter dans cette voie. Les haies d'épines sont donc toujours là, mais dans nos têtes. Au point qu'il a été jugé nécessaire de créer des bourses pour inciter les filles à s'orienter vers les sciences. Comme la bourse L'Oréal France UNESCO Académie des Sciences. Deux de ses lauréates, Pauline Dubard et Myriam Père, sont avec nous aujourd'hui.
Viva la femme.
Ah, les femmes, toute une histoire.
Bonjour Jeannine Trottereau.
Bonjour.
Bonjour Myriam Père et Faustine Dubard.
Bonjour.
Merci d'être là aujourd'hui. Je rappelle donc toutes les deux, Myriam et Faustine, vous faites partie des 10 jeunes chercheuses lauréates de la bourse L'Oréal France UNESCO Académie des Sciences pour les femmes et la science qui vient d'être décernée cette année. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais d'abord honneur à votre aïeule Marie Curie et à sa biographe Jeannine Trottereau. Donc Jeannine Trottereau, vous êtes journaliste et historienne. Vous avez publié cette année une biographie passionnante de Marie Curie chez Gallimard, en collection de poche, folio. Aujourd'hui encore, quand on parle des femmes scientifiques, c'est étonnant, la référence absolue demeure Marie Curie, 100 ans quand même après son deuxième prix Nobel, c'était donc en 1911. L'image un peu d'une femme quand même austère, blouse grise, s'épuisant à la tâche dans un hangar de bois glacial, sacrifiant sa vie, même au sens propre, à ses recherches sur le radium. Une belle icône, certes, mais qui ne donne pas vraiment envie, forcément, aux filles, en tout cas, de faire de la recherche. Alors dites-moi, Jeannine Trottereau, Marie Curie, était-elle vraiment cette sainte de la science qu'on présente souvent ?
C'est effectivement l'image qu'on conserve d'elle, qui est à la fois vraie et fausse. C'est-à-dire, c'est effectivement une femme toujours habillée en noir parce que veuve de son mari, souriant peu à l'extérieur, très peu pipolisable à l'époque, ne fréquentant personne en dehors du milieu scientifique. Par ailleurs, ça n'était pas une femme austère, elle adorait son boulot. C'est-à-dire que pour elle, la recherche était tout, qu'elle s'y intéressait, qu'elle s'y amusait beaucoup, qu'on l'entendait rire au labo, qu'elle a promue à travers l'Institut du Radium, qui est devenu l'Institut Curie, toute une génération de chercheurs, des hommes et des femmes, bien entendu, et que dans ce domaine, ça n'était absolument pas la femme austère qu'on a bien voulu présenter. Par ailleurs, il est vrai qu'au début de ses recherches, ça a été dans un laboratoire absolument immonde, genre cave à vin ou hangar à pommes de terre, comme certains l'ont décrit, mais c'était aussi les laboratoires du temps, c'est-à-dire qu'à cette même époque, les autres chercheurs étaient à peine mieux lotis. Donc l'icône est née de là, c'est-à-dire la Cosette de laboratoire, la femme austère de son veuvage, et c'est resté comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'était aussi une femme vivante qui a eu des enfants, qui s'est occupée de leur éducation, qui était sportive, qui faisait du vélo à une époque où il n'y avait que les femmes de mauvaise vie qui pouvaient faire du vélo, qui nageait, qui prenait des vacances, qui s'intéressait à énormément de choses et pas seulement dans le domaine scientifique.
Il faut rappeler que Marie Curie est née Mania Sklodowska. Elle était polonaise en 1867, elle est née en Pologne, donc un pays alors dominé par la Russie tsariste. Elle est la dernière d'une famille de 5 enfants et le père est un professeur. Sa mère, elle, meurt prématurément de la tuberculose. Elle vit donc avec son père et c'est une élève très douée, bien sûr, qui décide très jeune qu'elle sera scientifique. Mais peut-on expliquer cette réussite uniquement par un courage, une obstination hors pair, cette envie d'aller à Paris pour étudier? Est-ce que ça a été déterminant aussi?
Oui, ça a été déterminant, mais dans la famille Sklodowski, elle n'était pas la seule. C'est-à-dire que son frère a voulu faire des études, vous me direz, c'était un homme, c'était plus normal à l'époque, et sa sœur aînée, Bronia, est la première qui est partie à Paris. C'est-à-dire qu'elles avaient décidé, jeunes, qu'il fallait qu'elles partent faire leurs études à l'étranger, parce que en Pologne de Russie, ça n'était pas possible pour les femmes. Donc Paris leur paraissait un point de chute raisonnable. Et la première à partir, ça a été donc sa sœur Bronia, qui a fait des études de médecine, qui a été une des premières femmes avec un doctorat de médecine en France, pas la première, mais une des premières. Et elles avaient décidé qu'elles partaient. Et pour partir, il fallait de l'argent. Donc l'aînée partait d'abord. Pendant ce temps-là, la cadette travaillait pour pouvoir avoir un peu d'argent pour partir à Paris. Et finalement, elle rejoignait sa sœur pour, à son tour, faire des études qui se trouvent être des études de physique et de mathématiques.
Est-ce que la France était à l'époque un pays plus en avance par rapport à la Pologne pour les femmes, justement ?
Plus en avance par rapport à la Pologne, c'est sûr, pour l'éducation des femmes, la France n'avait pas de mal. Ceci dit, ouverte véritablement aux femmes, très peu, et depuis simplement quelques années. Mais curieusement, plus ouverte aux femmes étrangères qu'aux femmes françaises. Ce qu'on appelait l'étudiante à l'époque, c'était la femme de mauvaise vie, c'est-à-dire la maîtresse, la grisette, amante des étudiants. Et il était bien normal à l'époque qu'une femme française, c'est-à-dire en général, enfin une étudiante française issue de la bourgeoisie, ne pouvait pas sortir sans chaperon. Les étudiantes étrangères étaient moins soumises à ce genre de diktat, donc pouvaient sortir, avoir une chambre de bonne plutôt qu'un foyer d'étudiantes, pouvaient sortir, à la limite fréquenter des garçons sur les bancs de l'université. Donc en ce sens-là, effectivement, et il y avait énormément d'étudiantes étrangères, et particulièrement du centre de l'Europe. Elles étaient mieux venues que les étudiantes françaises, ce qui n'empêche pas qu'il y en avait quand même quelques-unes.
Comment on peut expliquer cette détermination de Marie Curie ? Cette force comme ça, elle va arriver donc en 1891, elle arrive dans un wagon de troisième classe, elle va vivre des années difficiles. Enfin, on est un peu dans un roman de Zola, là, mais c'est réel tout de même. Elle vit des choses très dures et elle va y arriver. Elle va obtenir sa licence de physique à la Sorbonne. Elle est quand même polonaise. C'est incroyable, cette détermination.
Mais peut-être justement parce qu'elle est polonaise au départ. C'est-à-dire qu'en Pologne, dans son milieu, la femme a des droits peut-être des devoirs aussi, mais a des droits que la femme française n'a pas. Elle gère sa fortune, elle a le droit de faire des études, elle est beaucoup plus indépendante, elle est plus indépendante que la femme française de l'époque. Et elle a vécu dans un milieu très actif, pour ne pas dire activiste, prenant l'éducation des femmes, l'alphabétisation des femmes, la recherche scientifique pour les femmes. Elle a vécu dans un petit milieu intellectuel, certes, mais un milieu qui prenait ce genre de choses. Et elles sont effectivement plusieurs jeunes filles polonaises à partir à Paris ou ailleurs, mais à partir à Paris surtout, pour étudier.
Oui, un féminisme, on peut dire, presque plus scientifique, c'est-à-dire elles pensent que les femmes doivent...
Je ne sais pas si on peut appeler ça féminisme, et je pense que Marie Curie nous entendrait, elle sauterait au plafond, parce que le féminisme n'était pas du tout son point de vue sur le monde. Les femmes devaient accéder à la culture comme les hommes, mais elle n'a jamais eu de point de vue sur ça, sinon par une démonstration de sa vie personnelle.
Shining Star de la chanteuse moitié allemande, moitié nigériane, Nika. La vie de Marie Curie a beaucoup inspiré le cinéma. Un des films les plus réussis est sans doute celui de Claude Pinoteau, Les Palmes de Monsieur Schultz, en 1997. Dans cet extrait qu'on va entendre, Mania Sklodowska, interprétée avec un fort accent par Isabelle Huppert, travaille à Paris dans le laboratoire d'un certain Pierre Curie, joué lui par Charles Berling. Entre eux, naît vite une complicité amoureuse et scientifique assez exceptionnelle.
Regarde, Pierre, c'est incroyable. Ces sels d'uranium font grésiller le potentiomètre.
Qu'est-ce que tu racontes?
Sans être relié à la moindre source électrique, ils émettent un courant très faible. Mais regarde, viens voir, l'aiguille vibre.
C'est rigoureusement impossible.
Vérifie-toi-même.
C'est ahurissant. D'où viennent ces sels d'uranium?
Du placard.
De toute façon, l'uranium n'a aucune propriété magnétique. Pourquoi émettrait-il de l'électricité puisqu'il ne peut ni en stocker ni en produire?
Regarde, il émet de l'électricité. Ça expliquerait sans doute les aberrations de ton électromètre.
Probablement, oui, mais reste à savoir pourquoi il en émet.
Pierre, écoute-moi, à nous deux, on peut tout. Tu m'entends? Tu es un esprit supérieur, moi, une bête de travail. D'ici l'été, on peut trouver.
Trouver quoi?
Mais comment interpréter ce phénomène d'hyperphosphorescence? À nous deux, rien ne peut nous résister. Nous avançons notre mariage, nous repoussons notre voyage de noces et dans l'intervalle, nous travaillerons. Alors, oui ou non?
Comment dit-on, l'union fait la force en polonais?
Solidarność.
Sa chance et son intelligence aussi, ça a été de, aussi de rencontrer et d'épouser Pierre Curie, parce que ça peut sembler peu important, mais ça a été très important dans sa carrière. Un homme de science comme elle, qui a eu lui aussi l'intelligence de voir en elle non pas une concurrente, mais une compagne et une associée à part égale. Est-ce que c'est ça, sa relation avec Pierre Curie, l'histoire d'un couple, on a l'impression, un peu moderne, égalitaire, un peu idéal?
Bon, je ne sais pas si c'est un couple idéal, ni même égalitaire, mais il est sûr que Pierre Curie a eu une influence majeure chez elle. C'est-à-dire qu'au départ, elle pensait acquérir un certain nombre de diplômes en France, mais surtout se former et retourner en Pologne pour, à son tour, enseigner aux jeunes filles la science. Elle comptait faire passer son savoir et être enseignante en Pologne, parce que vraiment, sa vision du monde à l'époque, c'était une Pologne indépendante, libre et avec une éducation ouverte à tous. Et donc, son point de vue sur le monde, c'était l'enseignement, même si elle faisait de la recherche au cours de ses études. Or, elle rencontre un homme, Pierre Curie, qui ne vivait que pour la recherche et qui, depuis des années, cherchait et dans tous les domaines. C'était, quand elle l'a rencontré, un scientifique brillant, reconnu dans des tas de domaines et qui, lui, tout d'un coup, le célibataire endurci, vivant chez ses parents, n'ayant jamais fait que de la recherche, voit arriver du fin fond de l'Europe une jeune fille brillante, intelligente, jolie, têtue comme une bourrique, qui voulait faire de la science, mais comptait retourner en Pologne. Et c'est lui qui a tellement insisté, qui l'a fait rester en France, et qui
l'a
demandé
la recherche.
Pour faire de la recherche, et qui, par la même occasion, l'a demandé en mariage. Mais elle a hésité longtemps, elle a hésité pendant une grande année, pour savoir si elle allait se consacrer à la recherche, ce qui l'intéressait effectivement énormément, ou alors si elle n'allait pas retourner en Pologne pour pouvoir enseigner, ce qui était en fait son but premier dans la vie.
Donc en 1895, elle épouse Pierre Curie. Elle va avoir deux filles, Irène qui naît en 1897 et Ève plus tard en 1904. Alors quand on regarde les dates, donc c'est quand même fou. Elle a des enfants et en même temps, elle prépare ses concours, elle va préparer sa thèse, doctorat.
Oui, c'est
et dans la foulée, elle aura le prix Nobel avec Pierre Curie. Est-ce que les bébés, pour elle, ça a été une espèce de booster aussi?
Je ne sais pas si ça a été un booster. De toute façon, elle était très famille, donc elle voulait des enfants. Ça ne pose aucun problème. Il est vrai que la majeure partie de ses recherches et la découverte du polonium et du radium en particulier s'est fait au moment où elle était enceinte d'Irène et puis après l'accouchement, et que ça ne l'a pas arrêtée. Donc, est-ce que ses enfants ont été un booster? Je n'en sais rien.
Savoir, oui.
Mais ça ne l'a pas empêché d'en avoir. Et elle ne s'est jamais dit, je suis scientifique, donc je reste sans enfant. Ça, c'est sûr.
Oh, il est temps que je retourne au laboratoire, tu sais.
Attends encore un peu, Marie. Irène a besoin de toi.
Bah, et de son père aussi. Tu ne l'as même pas embrassé aujourd'hui.
Mais elle déteste ma barbe.
Tu sais que Georgette va quitter son travail pour venir nous aider?
Irène Curie. Oh, de... Oh là 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 là, de qui tiendras-tu, petit bout de chou aux grands yeux étonnés? Seras-tu comme ton père ou comme ta mère?
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Folle de science ou scientifiquement folle? Attention à toi.
Mais en 1906, donc 2 ans après la naissance d'Ève, leur deuxième fille, Pierre Curie meurt brutalement renversé par une voiture à cheval. Un drame, bien sûr, pour Marie Curie, qui va néanmoins poursuivre brillamment ses recherches. En 1911, donc, elle reçoit son deuxième prix Nobel, cette fois toute seule. Comment Marie Curie était-elle perçue à l'époque? Est-ce qu'elle était populaire? Il y a eu l'affaire aussi de la découverte de son amant.
Oui, mais même avant la découverte de son amant, si on peut dire. Ça, c'est une grande question. Dans un milieu scientifique progressiste, naturellement, elle était très bien considérée. La majeure partie des scientifiques importants de son temps étaient de ses amis. Quant au grand public, théoriquement, il n'aurait pas dû connaître Marie Curie parce que ses recherches étaient tellement pointues et un côté scientifique tellement ardu que Marie Curie n'aurait pas dû être connue, mais il y a eu 2 grands points qui ont fait la une des journaux, et de manière tout à fait scandaleuse d'ailleurs. La première, c'est que ses amis l'ont poussée à se présenter à l'Académie des sciences, en 1910. Elle était assez réticente, Pierre Curie s'y était présenté, là aussi, sur pression de ses amis, et avait été écartée. Et là, on lui dit, mais non, pourquoi pas, vous devriez y aller, vous êtes déjà membre d'Académie des sciences de tous les pays, il faudrait que l'Académie des sciences vous reçoive. Il y avait à l'époque 3 prix Nobel scientifiques, et elle était la seule à ne pas faire partie de l'Académie des sciences.
Une Académie des sciences où il n'y avait pas de femmes.
Oui, il n'y avait pas de femmes, mais ni à l'Académie des sciences, ni à l'Académie des beaux-arts, ni à l'Académie française. Enfin, les femmes n'étaient pas à l'Institut. Donc, elle se présente, et là, immédiatement, ça a été une campagne de presse absolument formidable. Comment une femme sous la coupole? Alors, il y avait 2 choses. Premièrement, pour pouvoir être élue, il fallait faire des visites, visiter tous les membres de l'Académie des sciences et aller leur présenter ce que vous aviez fait. Et pensez donc, une femme seule arrivant chez des messieurs, c'était absolument inconcevable. Deuxièmement, porter la tenue d'académicien avec l'épée, une femme, je ne vous dis pas. Et là, ça a été une campagne de presse absolument formidable, avec une partie de la presse, pas forcément de droite, mais complètement réactionnaire, parce qu'il y a eu certains journaux de droite qui l'ont soutenue. Mais la presse antisémite, catholique, royaliste, xénophobe est montée au créneau. Et non seulement les journalistes hommes, mais une partie des femmes. Comment une femme sous la coupole, mais alors maintenant, on ne pourra plus faire de caprices, on ne pourra plus se poudrer le nez, on ne pourra plus avoir notre pouvoir sur les hommes. Ça a été une campagne absolument délirante, d'autant plus que face à elle se présentait à l'Académie des sciences Édouard Branly, professeur à l'Institut catholique, catholique bon teint, allant à la messe, droite réactionnaire, bon français, bon père de famille, etc. Donc, elle a échoué à l'Académie des sciences par 2 voix pour Édouard Branly. Et là, ça a été une campagne, mais assez ignominieuse.
Deuxième épisode,
en 1911. Paul Langevin, éminent scientifique, a des problèmes avec sa femme qui veut demander la séparation de corps et qui accuse dans la presse Marie Curie d'être sa maîtresse. Alors là, campagne de nouveau absolument délirante, quand même une émigrée polonaise, une femme étrangère qui vient chez nous voler à ses enfants une bonne mère de famille, etc. Je vous passe le reste. Et là, ça a été une campagne absolument monstrueuse, d'autant plus que ceux qui la soutenaient dans la presse étaient des scientifiques qui avaient soutenu Dreyfus lors de la révision. Donc, on a fait une campagne antisémite formidable sous prétexte qu'elle s'appelait Maria Salomea Sklodowska, non seulement polonaise, mais s'appelant Salomé, sans doute juif, ce qui n'était pas le cas, mais le problème n'est pas là. Donc, une chose absolument formidable. La campagne de presse a été telle que les journaux américains, les journaux suédois, les journaux de tous les pays ont fait leur une sur le scandale. Je vous rappelle que Marie Curie était veuve depuis 6 ans, donc l'adultère, s'il y avait adultère, n'était pas de son côté, mais on la traitait de femme adultère dans tous les journaux. Et au même moment, sa candidature était proposée comme prix Nobel de chimie à Stockholm. Et tout d'un coup, Stockholm a décidé, mais on ne va pas lui remettre le prix Nobel, alors qu'il y a une campagne sur ses mauvaises mœurs. Marie Curie leur a répondu, mais absolument pas, pas question. J'ai un prix Nobel, c'est pour mes travaux scientifiques sur le polonium et le radium. Alors je suis désolée, le 11 décembre, je serai là et je recevrai mon prix. Donc à la fois une campagne absolument formidable sur les mœurs de Marie Curie et d'un autre côté, un deuxième prix Nobel l'a reçu en son nom propre, parce que le premier en 1903 avait été octroyé pour moitié à Henri Becquerel et pour autre moitié à Pierre et Marie Curie. C'était un prix Nobel de physique, là c'est un prix Nobel de chimie, et c'est elle qui le reçoit à part entière. Donc, vous me demandez, était-elle populaire ou n'était-elle pas populaire? Bien entendu, son nom était connu de tous, puisqu'elle était à la une de tous les journaux. Elle était vilipendée par une partie de la presse, donc sans doute par une partie de la société, et par ailleurs, traitée comme une icône scientifique qu'elle était, par une autre partie, et de la presse et du monde scientifique.
Mais désormais qu'elle est, elle a tout de même ce prix Nobel, elle a aussi la chaire de physique à la Sorbonne.
Oui, elle a été la première femme à enseigner à la Sorbonne.
Donc maintenant, elle peut poursuivre ses recherches et elle va aussi se rendre aux États-Unis en 1921 pour faire une grande collecte d'argent. Une énorme somme d'argent va être réunie grâce à des femmes américaines, je crois,
oui, tout à
pour
fait.
Pouvoir acheter un gramme de radium pour ses recherches. C'était une belle action de femmes américaines, ça.
Oui, c'est sûr et c'est certainement pourquoi aux États-Unis elle reste une icône formidable, puisque tout à l'heure on parlait d'icône. Effectivement, il y a eu une campagne auprès de femmes américaines pour offrir à Marie Curie un gramme de radium. Il faut dire qu'un gramme de radium, ça valait des fortunes en francs or à l'époque. Or, Marie Curie n'a fait pas ce gramme pour poursuivre ses recherches parce que le radium, finalement, ni elle ni Pierre Curie n'avaient pris de brevet sur leur découverte du radium. C'était donc fabriqué en France comme aux États-Unis et ailleurs sans qu'elle puisse toucher des dividendes sur finalement ce qui était sa découverte. Et une journaliste américaine venant l'interviewer et découvrant ça se dit « mais ça va être un truc formidable, en plus ça va faire une publicité formidable pour mon journal, je vais faire une campagne auprès des femmes américaines pour avoir assez de fonds pour offrir à Marie Curie un gramme de radium. » Et il y a donc eu une tournée absolument extraordinaire aux États-Unis, managée par cette journaliste américaine. Elle était accompagnée de ses deux filles et elles ont fait tous les États-Unis, toutes les universités, toutes les associations de femmes polonaises, de femmes universitaires, de femmes de ceci, de femmes de cela. Et elle est revenue, effectivement, avec son gramme de radium. Chose qu'elle a réitérée quelques années plus tard, dans la mesure où elle a monté aussi, en partenariat avec sa sœur, un institut du radium à Varsovie, que pour travailler et pour faire des recherches, il fallait de nouveau un gramme de radium, et que c'est de nouveau aux États-Unis qu'il y a eu les fonds nécessaires pour le gramme de radium pour l'institut Marie Sklodowska à Varsovie.
En 1934, donc Marie Curie meurt de leucémie suite à une surexposition à la radioactivité, je crois.
Oui, c'est ce qu'on pense.
C'est ce qu'on pense, oui. Est-ce qu'elle a reçu un hommage national en France à ce moment-là?
Si vous voulez dire au moment de sa mort, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que la famille a refusé des obsèques nationales, des discours sur son tombeau ou des choses comme ça, que de toute façon elle tenait à être enterrée aux côtés de son mari dans le cimetière de Sceaux, et que les hommages qui ont été rendus l'ont été, on pourrait dire, dans l'intimité, à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, où il y a eu des discours, des choses comme ça, mais à l'enterrement, rien du tout. Et ça, c'était une volonté de Marie Curie, comme ça avait été une volonté de Marie Curie à la mort de son mari, de faire quelque chose de très simple et dans l'intimité.
France Inter.
Le symbole, ce sont ces deux cercueils de bois clair qui remontent la rue Soufflot sur les épaules d'une vingtaine d'étudiants de l'université Curie. Ils marchent sur un tapis blanc, cela dure quelques minutes. Ça m'a paru une éternité, dira ensuite un jeune homme. Le symbole, ce sont aussi ces élèves de différents lycées Curie de la région parisienne qui sont au pied de la tribune présidentielle. Ils ont tous à la main une représentation d'une découverte de Pierre et Marie Curie.
Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation, que j'ai l'honneur d'exprimer devant vous. celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent.
Donc il a fallu attendre 1995 pour qu'effectivement
1995
pour qu'il y ait un hommage rendu à Marie Curie et à Pierre Curie au Panthéon, le dernier geste médiatique de François Mitterrand avant de se retirer du pouvoir.
PJ Harvey, The Words That Make the Murder, extrait de son dernier album. Vous écoutez Les Femmes, toute une histoire, consacrée donc aujourd'hui aux femmes et la science, celle d'hier, comme Marie Curie, dont vient nous parler Jeannine Trottereau, mais aussi à celle d'aujourd'hui et de demain.
Viva la femme.
Les femmes, toute une histoire.
je me tourne maintenant vers vous, Myriam Père et Faustine Dubard. Donc, vous êtes deux sur les 10 lauréats de la bourse L'Oréal France UNESCO Académie des Sciences 2011 pour les femmes et la science, qui en est cette année à sa 5e édition. Alors, l'objectif de ce prix est d'encourager les jeunes filles à étudier les sciences et à en faire de la recherche leur métier, susciter aussi des vocations. Vous êtes donc toutes les deux des étudiantes encore, hein, préparant un doctorat en sciences du vivant ou de la matière. Vous avez été choisies pour la qualité et l'utilité de vos recherches, c'est cela ?
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, ce personnage de Marie Curie ? On commence par vous, Myriam Père.
C'est un petit peu impressionnant de voir quelqu'un qui a cette détermination et puis qui arrive si loin, finalement. C'est un exemple, après... On va faire ce qu'on veut poursuivre.
Donc Myriam Père, je crois que vous avez 25 ans.
26.
Et dites-nous, quel a été votre parcours à vous et dans quel domaine spécifiquement vous travaillez ?
Donc moi, je travaille dans la physique, plus particulièrement dans la physique des cellules solaires, donc des panneaux photovoltaïques. Donc mon parcours, j'ai fait un collège et un lycée général en section S, donc scientifique. Et après, je suis partie en classe préparatoire pendant 2 ans et j'ai intégré l'école polytechnique à la suite des classes préparatoires.
Voilà, l'école polytechnique.
Et donc, à l'école polytechnique, j'ai continué un cursus mécanique, physique, pour après voilà, commencer une thèse de doctorat sur le photovoltaïque en particulier.
Et qu'est-ce que le photovoltaïque en quoi c'est une recherche importante ? Dites-nous ce que c'est, parce que donc moi, je ne sais pas, et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ne savent pas non plus.
L'effet photovoltaïque, c'est le fait de pouvoir créer l'électricité à partir de la lumière. Et donc, c'est les panneaux qu'on voit un petit peu fleurir sur les toits maintenant, qui peuvent, en récoltant la lumière qui nous vient du soleil, créer de l'électricité de façon propre. Donc ça, c'est important dans des enjeux énergétiques de demain, de pouvoir... se passer en partie ou totalement d'énergies fossiles dont on sait qu'elles produisent des CO2 et dont on sait aussi qu'elles sont limitées en ressources, et aller vers des énergies plus propres qui peuvent être étendues à plus grande échelle et aussi à plus long terme.
Donc c'est les nouvelles énergies, c'est une
voilà,
manière de
ce qu'on appelle développer. Les énergies renouvelables, voilà, tout à fait. Voilà.
Et vous, Faustine Dubard, vous avez quel âge ?
Alors moi, j'ai 25 ans.
Oui, et quel est votre parcours ? Un parcours étonnant, je crois.
Oui, moi, j'ai un parcours un petit peu plus atypique que Myriam, dans le sens où moi, j'ai fait un bac technique. Ouais. Donc, je ne me destinais pas du tout à faire de longues études au départ. Donc, j'ai fait un bac en sciences et technologies de laboratoire en chimie. Donc, parce que la chimie, c'était déjà ma matière préférée et je voulais aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait voir, notamment dans le bac scientifique, où je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'expérimental. Et ça, c'était le côté vraiment qui m'intéressait. Donc, à la suite de ça, j'ai intégré l'IUT de Lille 1. J'ai fait mes 2 ans, j'ai été assez bien classée, ce qui m'a permis d'intégrer directement la 3e année de licence de l'Université de Lille 1. Donc là, c'était en chimie générale. Et ensuite, j'ai un cursus un peu plus classique où là, j'ai fait un master 1 et un master 2 en chimie organique et macromoléculaire. Pour ma 2e année de master, j'ai choisi de m'orienter en recherche pour ensuite faire un doctorat en chimie organique et plus particulièrement sur de la chimie thérapeutique dans le domaine du paludisme.
Donc, le paludisme, qui est une maladie donc, très, très développée, notamment en Afrique. Vous êtes plutôt dans le médical, on peut dire, vous dans les énergies. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette bourse, Myriam, Père ?
Cette bourse, ça nous permet de pouvoir envisager l'avenir plus sereinement.
C'est un peu d'argent ?
Voilà, c'est un peu d'argent. Et puis, il y a aussi un côté d'une reconnaissance. On se dit que des gens extérieurs à nos recherches ont jugé que ce qu'on faisait avait une utilité. Donc ça, c'est une fierté aussi. Voilà, une fierté et envie de continuer avec le coup de pouce que peut nous donner la bourse, autant d'un point de vue financier que d'un point de vue visibilité, on va dire.
Et vous important.
Oui, c'est sûr que la visibilité, c'est très important, et notamment au niveau des personnes qui ont décidé que nos dossiers étaient meilleurs que les autres, puisque dans le jury, il y avait quand même des personnes de l'Académie des sciences, donc c'est quand même des personnes importantes au niveau de la communauté scientifique. Donc d'avoir une reconnaissance de ces personnes-là, C'est super. Et personnellement, je ne m'attendais pas à avoir cette bourse quand j'ai fait le dossier. Bon, je l'ai fait un peu comme ça en me disant, bon, allez, je tente ma chance, mais bon, sans grand espoir. Et c'est vrai qu'en tant que doctorant, on a un peu de mal à juger son travail et l'impact de notre travail sur la société.
On a besoin d'une reconnaissance.
Oui, on a besoin de reconnaissance. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir de la reconnaissance au niveau de ses pairs, au niveau de son domaine scientifique, mais là, d'avoir une reconnaissance extérieure et le fait de pouvoir valoriser aussi nos recherches à travers les médias, notamment comme aujourd'hui dans cette émission, c'est vraiment exceptionnel.
Et pourquoi, à votre avis, est-ce nécessaire d'organiser des bourses comme ça pour les filles, pour qu'elles puissent faire de la science ? Vous pensez que c'est indispensable ? Il y a un manque de femmes, hein ? On dit qu'il n'y a que 28% des chercheurs en France qui sont des femmes.
Ben, je pense que, de fait, il y a peu de femmes qui font des sciences, encore moins qui font de la recherche. Et c'est bien de montrer qu'on peut s'épanouir dans ce domaine-là. Si on peut montrer que des femmes font de la recherche et se plaisent dans ce domaine-là, on pourra peut-être susciter quelques vocations. Je pense que des fois, la science a une image austère qui fait que très tôt, les filles ne s'orientent pas dans ces filières-là parce qu'elles ne s'imaginent peut-être pas la carrière qu'elles pourraient avoir ou les métiers que ça représente. Et voilà, mettre un petit phare sur certains parcours, certaines recherches, je pense que c'est important.
Est-ce que vous, par exemple, Myriam, donc vous avez fait l'école polytechnique, est-ce que depuis très longtemps, c'était clair dans votre esprit que vous alliez faire de la recherche quand vous étiez au collège, au lycée, c'était quelque chose d'évident ou...
Ce qui était évident pour moi, c'est que je ferais des sciences. De la recherche, non, ça s'est venu plus tard. Au début, je me destinais plus à l'enseignement. Enfin, dans l'idée, je me voyais bien professeur de sciences. Et puis, petit à petit, en creusant, je me suis rendu compte que la science, je l'aimais bien et... l'enseigner, c'était peut-être moins ma vocation, mais plus aller approfondir les connaissances scientifiques. Et donc, petit à petit, dans mes études supérieures, je suis passée de la volonté d'être enseignante à la volonté d'être chercheuse. Mais ça c'est une transition qui s'est faite plusieurs années après le baccalauréat.
Est-ce que vous avez été soutenue dans cette voie par votre famille, par exemple, par les enseignants au lycée ? Est-ce qu'on vous a encouragée dans cette voie ?
Oui. Alors, on m'a encouragée par l'exemple, parce que mes deux parents sont scientifiques.
Ah, les gens,
donc, je pense que voilà, j'ai vu des gens qui faisaient de la science et qui aimaient bien ça. Donc, de fait, j'ai été encouragée et ils m'ont toujours soutenue dans cette voie-là. J'ai jamais eu de soucis avec ça.
Et vous, Faustine Dubard, donc vous avez donc ce bac technique, ce passage par l'IUT. Est-ce que vous avez été encouragée, justement Est-ce que alors, ça a été un choix difficile ?
Alors, sur le coup, quand j'ai dit à mes parents et surtout à mes professeurs que je voulais partir en technique, parce qu'à la base, j'ai fait une seconde générale, on m'a dit « mais non, tu ne te rends pas compte avec tes notes, c'est dommage ». On m'a dit clairement « c'est dommage », alors que je trouve que le bac technique, il est très bien et pourtant il est dénigré alors que c'est une très bonne formation.
Vous en êtes la preuve.
Oui, oui, je suis la preuve que même avec un bac technique, on peut faire de longues études et ça c'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases et à leur dire « t'as choisi ça, c'est fini, ta carrière elle est figée, tu seras un technicien parce que t'as fait un bac technique ». Donc je trouve ça un peu dommage de mettre des catégories comme ça, mais d'un autre côté, le fait d'être passé par là, ça m'a permis aussi de voir les différents aspects de tous les métiers, et ça m'a permis aussi de voir que finalement, la recherche, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus que le technique. Et je pense que les profs à l'époque qui m'avaient dit « non, ne pars pas là-dedans, c'est dommage », je pense que maintenant, ils doivent se dire qu'ils ont bien fait de me laisser partir dans ce que je voulais faire, parce que je pense qu'une fois qu'on a trouvé sa voie, c'est beaucoup plus facile de gravir les échelons.
Dans le parcours des filles, dans le parcours des études, on constate qu'elles sont quasiment aussi nombreuses que les garçons à faire un bac S, un bac scientifique, avec en général de meilleures notes. Mais en classe préparatoire, où ensuite elles ne sont plus que 30%, ensuite elles ne sont plus que 27% à devenir ingénieures, 22% seulement des directeurs de recherche sont des femmes, 16% des professeurs de sciences sont des femmes. Est-ce que vous connaissez, vous, des filles, donc des copines à vous, qui ont été brillantes comme ça au lycée, puis qui après n'ont pas fait ce choix justement de la recherche, ouais, qui aurait pu le faire,
moi, à votre avis ? Moi j'en connais et qui se sont arrêtés après un bac plus 2 ou même un bac plus 5, qui n'ont pas voulu partir dans de la recherche par peur, je pense, de plus de la vie de famille après, parce que c'est vrai qu'on a tendance à stigmatiser un peu les chercheurs en disant que c'est des personnes qui restent 24 heures sur 24 dans leur laboratoire, qui n'ont pas de vie à côté, alors que assez faux. Myriam, comme moi, on a des vies épanouies à l'extérieur de
nos laboratoires. Vous avez l'air épanouie.
Donc, je pense pas. Et je pense que l'exemple de Marie Curie, c'est un bon exemple, puisqu'elle a eu des enfants, elle a eu une carrière très brillante avec deux prix Nobel. Donc, je pense que des exemples comme ça, qui datent quand même de plusieurs années, je pense que maintenant, dans la société moderne, on peut très bien s'épanouir et être chercheuse en même temps. Ça, il n'y a pas de souci.
Et vous, Myriam Peyre ?
Oui, donc pour revenir, oui, moi je connais des amis aussi qui ont fait ce choix-là, mais qui ont peut-être plus fait le choix de partir dans des domaines, par exemple, médicaux, qui étaient fortes en sciences et qui sont plus eu le goût des sciences, mais dans le domaine médical ou pharmaceutique derrière.
Mm-hmm. Comment vous envisagez votre avenir, à la fois professionnel, personnel ?
Je sais que la science, c'est quelque chose qui restera avec moi, voilà, c'est ma passion. Et la thèse m'a confirmé aussi dans mon goût pour la recherche. Après, j'ai une formation d'ingénieur et donc ce côté proche de l'industrie me plaît aussi. Donc je pense que voilà, je vais essayer d'avoir un parcours avec un pôle recherche et aussi un pôle plus industriel, essayer d'être un peu à l'interface recherche et ingénierie.
Janine Trottereau, que vous inspire le parcours de ces jeunes femmes ?
Écoutez, moi je suis admirative, mais ce qui me traumatise, ce sont les statistiques que vous avez données tout à l'heure, et de me dire que 100 ans après le prix Nobel de Marie Curie, tout n'est pas joué.
Non, il y a encore beaucoup
de choses. C'est assez terrifiant, c'est assez terrifiant.
Merci Janine Trottereau, merci Faustine Dubard, et merci Myriam Peyre.
Merci.
Merci à vous.
Marie-Lou repose sous la neige, et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'île. De Malou en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me dis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une main. Prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protéger les droits du copyright opérant. C'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un sans-dit.
C'était Marie-Lou, Sous la neige, une chanson de Serge Gainsbourg, revisitée par Bachung. Bonjour Fiammi, vous êtes là ?
Bonjour, oui, je suis bien là.
Bonjour, donc Fiammi, je vous présente, vous êtes suisse, vous habitez Genève et vous êtes dessinateur de BD, notamment de BD scientifiques, on peut dire ça ?
Oui, éducative et puis humoristique, voilà.
Ah, quand même, humoristique, bien sûr. Alors, vous avez publié cette année un album que vous m'avez envoyé et qui m'a bien plu. Ça s'appelle « Les vies de Marie Curie, une femme dans l'histoire de la chimie ». On retrouve donc un peu Marie Curie, là. Vous m'avez dit que comme l'année 2011 a été consacrée à année de la chimie, vous avez décidé de composer une BD sur l'histoire de la chimie et des chimistes. Mais alors, quand on ouvre cette BD, on voit qu'il s'agit aussi d'une histoire des femmes. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Expliquez-nous.
c'est exactement ça. En fait, moi-même, je ne suis pas du tout scientifique, je ne suis pas du tout enseignant, je suis architecte de formation.
Vous étiez nul en chimie, je crois,
j'étais
à l'école.
Hyper nul en chimie, j'étais une catastrophe en chimie. Et en fait, quand l'année de la chimie s'est profilée à l'horizon, je me suis dit, je ne vais pas faire quelque chose là-dessus. Quand bien même, j'avais fait deux bandes dessinées précédentes sur Einstein pour l'année de la physique et sur Galilée pour l'année de l'astronomie. Et j'ai commencé autour de Marie Curie, puis j'y arrivais pas. Je me suis dit, c'est trop compliqué pour moi, la chimie. Et puis, tout d'un coup, j'ai quand même réfléchi, puis je me suis dit, mais il y a pour cette année quelque chose de vraiment différent. C'est que le personnage, pour une fois, le personnage emblématique de cette année internationale n'est pas un homme, mais c'est une femme.
Oui, il y a
Marie
Curie
aussi.
Mon
angle de vue, ouais. Effectivement, j'ai essayé de raconter six grandes étapes de l'histoire de la chimie, mais aussi à travers l'évolution de la place de la femme dans la société et le personnage de Marie Curie.
Oui, donc alors, on a d'abord Aristote, une histoire avec Aristote, donc sous l'Antiquité. Ensuite,
avec sa femme.
Et avec sa femme. Voilà, on va rentrer plus en détail. D'abord, la deuxième, c'est celle du médecin Balois du XVIe siècle, Paracels. Ensuite, on est en 1789 avec Lavoisier. En 1896, avec un chimiste russe, Mendeleïev. Ensuite, 1911, avec Marie Curie. Et enfin, on arrive à la fin aujourd'hui. On est en Inde, toujours avec la chimie. Alors, déjà, la première page, je trouve qu'elle est très parlante. Hein. On vous avait dessiné le Panthéon, celui de Paris, dont les mots sur le fronton en disent assez long sur la place accordée aux femmes dans l'histoire officielle.
Voilà.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et on voit soudain le mot homme a été... que sur ce mot a été collé le mot femme, hein, par une petite main malicieuse, une petite fille à l'œil coquin qui est traînée par sa mère devant le Panthéon. Et on se dit que sa mère, c'est sûrement Marie Curie, non ?
Voilà. Et puis ça, la petite fille, c'est censé être F. Curie que je montre dans l'épisode justement de 1911, où je mets en scène Marie Curie pour essayer de montrer qu'est-ce qui se passe en 1911. Pourquoi tout d'un coup elle va recevoir ce prix Nobel et dans quel contexte elle va le recevoir.
Oui. Marie Curie qui est donc la seule femme honorée au Panthéon, il faut le préciser, pour son mérite propre.
Exactement, voilà. Et donc je trouvais pas mal de je commence l'histoire, l'épisode de 1911, devant le Panthéon. Et on a Marie Curie avec sa fille qui discute avec Rodin, le sculpteur, au pied du penseur de Rodin. Et pourquoi je mets ces deux personnages ensemble ? Parce qu'en me documentant, quand je cherchais des idées, j'ai trouvé une petite phrase dans un livre de François Giroux qui disait que Marie Curie avait rencontré Rodin en 1911. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ces deux personnages ont bien pu se raconter ? Parce que d'un côté, on avait Marie Curie qui était une penseuse de la matière, et de l'autre côté, on avait Rodin qui avait fait de la matière un penseur. Et à cette époque-là, en 1911, en fait, le penseur de Rodin était devant le Panthéon. Et voilà pourquoi, en fait, je situe mes personnages à cet endroit-là, à ce moment-là.
Donc après, on a l'histoire d'Aristote qui est croustillante. Hein. Aristote, le grand philosophe, allongé sur une banquette, il tente d'expliquer sa théorie du monde à sa femme qui, elle, est en train de s'activer dans la maison. Il y a une petite esclave aussi qui s'affaire. Hein. Alors, à ces deux femmes, le grand philosophe explique, sans rire, que les femmes et les esclaves sont des êtres inférieurs par nature. Et l'épouse, elle, a bien du répondant. Elle lui dit « J'en ai marre de rester à la maison, j'ai envie de sortir de cette baraque. » Et quand son mari lui affirme « La raison libère l'homme de la matière » et sa femme répond « Si seulement elle pouvait libérer les femmes. » Vous pensez qu'elle a vraiment existé, cette épouse d'Aristote ?
Il y a eu une Madame Aristote, en tout cas. Ça on le sait, on est certain. Moi, je me suis dit qu'avec un mari pareil, Madame Aristote devait avoir du boulot. Donc, j'ai trouvé pas mal de faire une femme qui avait du caractère, de l'intelligence, du répondant, et puis qui se laissait pas faire. Parce que, par exemple, Aristote est l'inventeur de la pensée logique. Et il dit, en fait, si les femmes sont moins bien considérées, c'est parce que c'est à cause de leur nature.
Fiammi, on va être obligé de s'arrêter là. Simplement, dites-moi, comment est-ce qu'on peut acheter votre livre ?
Alors, il suffit d'aller sur Internet, vous faites www.fiammi.ch et puis vous le recevez, vous commandez, vous le recevez en quelques jours.
Voilà, on ne peut pas le trouver en librairie, mais alors les références seront sur notre site aussi.
Merci beaucoup.
Merci, Fiammi.
Au revoir.
Voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Elle était réalisée par Adèle, assistée de Claire Destacan, à la technique Pierre-Yves de Rolin et Loïc Frapsos. Toutes les infos, les références, vous les retrouverez sur le site Les Femmes, toute une histoire, où j'attends vos réactions, bien sûr. Dimanche 8 janvier, je recevrai Claudie Aigneret, médecin et spationaute, qui fut en 1996 la première française dans l'espace. Mais avant cela, donc dimanche prochain, nous parlerons des femmes scandinaves. D'après une étude récente, les pays où les femmes vivent le mieux sont le Danemark, la Suède et la Norvège. Je recevrai Anne Ragde, romancière norvégienne et sacrée personnalité. Mais dans quelques minutes, après les infos, ne manquez pas l'Afrique enchantée de Soro Solo et Vladimir Cagnolari, bien sûr.